une conférence ouverte à tous, hein, bien sûr. Et donc, vraiment, aujourd'hui, on va traiter le Notre Père. On est arrivé au moment de la messe, au Notre Père. Ce Notre Père, il pose des questions. Et je vous dis toutes mes questions, moi, voyez. Notre Père qui est aux cieux. Dieu ne serait pas sur la terre ou dans notre cœur? Point d'interrogation. Il dit, je suis là avec vous. Que ton nom soit sanctifié. Ma question, c'est comment on sanctifie le nom de Dieu? Comment? Et qui le sanctifie? C'est Dieu? C'est moi? Que ton règne vienne. Pourquoi le règne de Dieu doit-il venir puisqu'il est déjà arrivé? Que ta volonté soit faite. C'est quoi la volonté de Dieu? Donne-nous notre pain de ce jour. Alors le pain, c'est quoi? La parole de Dieu, l'Eucharistie? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si je pardonne pas à l'autre, Dieu me pardonne pas? Ne nous soumets pas à la tentation. Alors maintenant, ça, la traduction a changé, mais ça voudrait dire que Dieu serait le diable de temps en temps et délivre-nous du mal. Pourquoi nous délivrer? Puisque depuis Pâques, on est délivré. Bref, vous voyez, sur chaque phrase, je n'y comprends rien. Nous récitons cette prière que nous ne comprenons pas. C'est quand même embêtant, hein? Bon, c'est une introduction pour vous donner envie. Je vais faire une longue introduction, et puis ensuite on verra chaque demande. D'abord, à l'image des psaumes, j'ai envie de dire que le Notre Père, c'est une prière que l'on reçoit, où Dieu nous dit trois choses. Ça va être mes trois grands points d'introduction. La première chose, Dieu nous dit ce qu'il faut lui demander. Puis je vais reprendre après à chaque fois. Ensuite, Dieu nous dit pourquoi le demander. Et Dieu nous dit comment le demander. Ce qu'il faut demander, pourquoi le demander, comment le demander. Voilà. Alors, premier point, Dieu nous dit ce qu'il faut lui demander. Vous savez, il y a cette parole en Romains 8, 26, « Nous ne savons pas prier comme il faut. » Et comme on ne sait pas prier comme il faut, eh bien, Dieu nous donne des mots. Et c'est ce qu'on appelle les psaumes. Les psaumes, c'est Dieu qui dit « Tu veux me parler ?» Eh bien voilà, je te donne un livre, qui est le livre des psaumes, et tu vas me parler avec mes mots, avec les mots que je te donne. C'est intéressant, les gens disent « Je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment faire. » Prenez les psaumes, dans les psaumes, vous avez une prière qui vous est donnée. Ce que dit l'épître de saint Paul en Philippiens 2, « Ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Puis après, il continue. Lui, de condition divine, etc. Bon. « Ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Dieu nous donne des mots, Dieu nous donne plus largement sa parole pour que nous ayons en nous les sentiments du Christ pour pouvoir parler au Christ, pour être accordés. Sinon, on va arriver avec nos préoccupations et Dieu, c'est gentil tout ce que tu me demandes, mais attends, moi je vais te dire ce qu'il faut demander. Alors, et c'est ça peut-être ce sous-point, après le fait que Dieu nous donne des mots pour lui parler, c'est quand même intéressant, c'est une prière de demande et il va nous demander, il va nous donner des mots pour comprendre quel est notre bien véritable. Pour pas que je me trompe dans la demande, parce que sinon je vais demander des choses, mais en fait c'est complètement à côté de la plaque. Dieu nous dit, écoute, attends, les choses essentielles à demander, je vais te les donner. Et dans les sept demandes, nous avons ce que nous avons à demander d'essentiel à Dieu. On peut demander des tas de choses, mais les choses secondaires, elles doivent être secondaires. Il faut bien nous intéresser à ce que Dieu nous propose, en fait. Il me dit ce que je dois lui demander parce qu'il veut me donner cela. En fait, nous ne sommes pas là pour renseigner Dieu. Donne-nous notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses. Tu comprends, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. Dieu, il sait très bien ce qu'il doit faire. Donc, c'est pas des mots, des paroles pour renseigner Dieu, c'est des paroles pour comprendre, nous, ce que Dieu veut nous donner. Voilà. Et notre désir est souvent un petit peu court. Nous voulons que nos affaires fonctionnent. Comme disait saint Ambroise, on aime prier en homme d'affaires. Bon. Nos désirs sont un petit peu courts, comme une chenille. Eh bien, une chenille, elle désire être une grosse chenille. Elle désire pas forcément être un papillon. Voilà. Et nous, c'est pareil, voilà. Dieu nous donne des mots pour, en fait, désirer le bien véritable. Voilà. Premier point de mon introduction. Dieu nous dit ce qu'il faut lui demander. Voilà. C'est quand même assez intéressant. Ensuite, Dieu nous dit pourquoi le demander. Pourquoi demander ça? Et là, je m'intéresse à la place du Notre Père dans l'Écriture. Après, on verra la place du Notre Père dans la messe, mais d'abord dans l'Écriture. Hein? Dans l'Écriture, il est à deux endroits, ce texte, au milieu, pile au milieu du Sermon sur la montagne et dans l'Évangile de Luc. Je m'intéresse d'abord au Sermon sur la montagne, donc en Matthieu. Voilà, Matthieu 6, verset 7. Bon, alors, c'est quoi le Sermon sur la montagne? C'est la loi nouvelle. Alors, la loi nouvelle, elle se distingue de la loi ancienne. Bon, la loi ancienne, c'est les 10 commandements, et puis c'est toute la loi. Il y a 600 commandements, plus de 600 commandements. Bon. Quand on dit la loi ancienne, les gens pensent souvent aux 10 commandements. Voilà. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Bon. Alors, c'était déjà un peu un garde-fou pour le peuple qui était sorti d'Égypte, et pour qu'il reste libre, on lui donne une loi, quoi. Bon. Alors, Jésus, il va plus loin. C'est pas simplement tu ne tueras point, mais si tu te mets en colère, c'est catastrophe. C'est pas tu commettras pas d'adultère, c'est si tu regardes une femme en la désirant, c'est la catastrophe. Donc il va plus loin. Hein? Il est plus exigeant. On dit souvent, tiens, dans l'Ancien Testament, Dieu est exigeant, etc. C'est la loi, etc. Et on dit le Nouveau Testament, c'est la liberté, il n'y a plus de loi. Ben, dans le Nouveau Testament, il est beaucoup plus exigeant. Par contre, il donne une force, qui est la force de l'Esprit Saint. Donc, quand saint Paul, dans l'Épître aux Romains, parle de la loi nouvelle, souvent, il en parle, en parlant, il a cette formule, il dit « la loi de l'Esprit ». On trouve c'est bizarre, la loi de l'Esprit, bon. En Romains 8, bon. En fait, oui, la loi nouvelle, c'est finalement cette vie dans l'Esprit Saint, hein, avec cette phrase de saint Paul dans le Galates, là, Galates 5, « puisque l'Esprit Saint est votre vie, que l'Esprit Saint vous fasse agir ». Voilà. L'homme, il reçoit en lui les dons de l'Esprit Saint pour avancer et obéir aux motions de l'Esprit Saint. Et c'est ça, sa loi. Être un saint, c'est pas dire, tiens, j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'ai pas... Non, être un saint, c'est être conduit par l'Esprit Saint. Hein? Voilà, donc bon. Bon, mais cette conduite par l'Esprit Saint et cette manière surnaturelle de vivre, elle est comme inscrite, quand même, dans un texte qui s'appelle le Sermon sur la montagne. L'excellence de cette vie nouvelle, elle est comme mentionnée dans le Sermon sur la montagne, voilà, qui commence par les béatitudes. Hein. Donc on passe, vous voyez, je crois que saint Thomas le fait aussi dans la Somme théologique, il passe des 10 commandements aux béatitudes. Voilà, la loi nouvelle, c'est ce portrait heureux, ceux qui ont une âme de pauvre, heureux les doux, etc. Vous voyez, la douceur, la pauvreté d'âme, c'est pas tellement lié aux 10 commandements. C'est autre chose. C'est un monde nouveau. Voilà, on sent bien que c'est plus mystique, c'est plus fin. Bon, c'est pas, tiens, j'ai traversé la ligne, j'aurais pas dû. Bon. Alors, voilà donc ce serment sur la montagne, cette loi nouvelle. Au centre de cette loi nouvelle, j'ai notre Père. Vraiment au centre. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'en fait, on nous dit deux choses à travers ça. On nous dit, tout ce que tu vas vivre dans la loi nouvelle, cette excellence de la loi nouvelle, ces actions, si tu as deux tuniques, de donner ta deuxième, etc. Ben, c'est pourquoi? C'est pour que tu rencontres le Père. Il y a une finalité. Hein, pourquoi je vis? Pour rencontrer le Père. C'est au centre. Hein. Dans la tradition juive, ce qui est important est au centre dans un texte. Dans la tradition, je sais pas quoi, européenne actuelle, là, ce qui est important est à la fin d'un texte en général. Enfin, vous voyez, on découle un raisonnement, puis on arrive à la fin. La conclusion, c'est ça que je voulais dire. Pour un juif, c'est pas ça. Hein, c'est le centre, le texte. Enfin, le plus important. Donc le but, c'est le Père. Le but, c'est le Père. Hein. Et puis, c'est à la fois le but et c'est à la fois le moyen. Cette loi nouvelle, oh là là, elle est difficile, elle est difficile, il faut faire plein de choses, hein? Matthieu 6, 7, 8. Hein? Oui, mais alors comment je vais y arriver? Tu vas y arriver par le Père. Il est aussi le moyen. Tu vas y arriver par Dieu, si vous préférez, pour être tout simple. Hein? Dieu me donne une loi, mais au centre, il me dit la clé, eh bien, c'est ton attachement au Père. Et cet attachement au Père, il se fait par le Fils. Voilà, grâce au Fils. Donc, le Père est à la fois le but et le moyen. Voilà. Quand on sait qu'on est aimé de quelqu'un, on peut aller très loin. Quand vous savez que vous êtes aimé, ben, que vous êtes attendu, que vous avez un sens dans votre vie, vous pouvez faire des grandes choses. Mais si je suis aimé de personne, si du coup j'ai pas de sens dans ma vie, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme grande œuvre? Je peux pas faire. On voit bien, dès que les gens, ça y est, ils sont fiancés, alors tout d'un coup, ça y est, l'autre, elle est prêt à prendre la voiture, aller au bout du monde pour rejoindre son moineau ou sa gazelle. Bon. Voilà. Ça, c'est Matthieu. La place de. Bon. Dans Saint-Luc, c'est pas pareil. Il est où le Notre Père? Il est dans la montée à Jérusalem. Ça veut dire que Jésus monte à Jérusalem et dans la dernière montée, il monte plusieurs fois, hein, mais dans la dernière montée, il dit le Notre Père. Quand vous allez au Mont des Oliviers, donc vous avez la grotte du Notre Père, et en fait, la grotte, elle est en face du temple. Donc certainement que, en tout cas dans cette montée, ou vers le temple, ou face au temple, Jésus a dit le Notre Père. Il a enseigné ses disciples. Comme si le Notre Père était, comment dire, l'étape pour offrir sa vie à Jérusalem. Voilà. Comme si c'était l'étape pour offrir sa vie à Jérusalem. Comme si ce Notre Père accompagnait l'offrande de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire offrir sa vie? Tiens. Eh bien, dans le Notre Père, tu as peut-être les clés pour offrir ta vie. Et puis, qu'est-ce qu'on me dit dans Saint-Luc, la deuxième chose? On me dit, un jour quelque part, Luc chapitre 11, hein, un jour quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. C'est des gens qui quand même savent prier, hein, les disciples, hein, ils vont au temple, hein. Ce n'est pas des enfants, hein, ils connaissent les psaumes, bon. Mais ils ont vu Jésus prier. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Et il leur demande, quand il eut terminé, Seigneur, apprends-nous à prier. Moi, je trouve ça très intéressant. Vous voyez, si j'avais enfin, j'ai quelques parents ici, mais si j'avais plein de parents, je les exhorterais fortement à relire cette phrase et à bien comprendre qu'on donne le goût de la prière en voyant quelqu'un d'autre prier. On ne donne pas le goût de la prière en exhortant les gens à prier. Hein, le curé d'Ars, il priait de longues heures dans son église et du coup il donnait envie aux autres de prier. Bon. Donc ce n'est pas les homélies qui font bouger les gens, c'est le fait que moi-même, voilà, je suis en train de prier, je vis les choses et du coup je donne envie. C'est très fort pour l'éducation, hein. On ne donne à ses enfants que ce qu'on vit soi-même. Un enfant n'imite pas en premier Jésus, il imite en premier ses parents. Voilà. Après, Dieu nous dit ce qu'il faut demander, Dieu nous dit pourquoi le demander, Dieu nous montre comment le demander. Troisième point de mon introduction, Dieu nous montre comment le demander. Ce qui veut dire que le Notre Père, c'est une véritable école de prière. Qu'est-ce que je regarde? Alors là, je vous ai donné donc le Notre Père et je voulais traduire pratiquement littéralement et je voulais bien structurer. Alors, on suit le texte, hein, dans la feuille. Vous donc priez ainsi, Notre Père des cieux, granta sa louange. Bon. Donc on va louer le Seigneur, ça le concerne lui. Sanctifié soit ton nom, hein, arrive ton règne, soit faite ta volonté. Bon. Pourquoi cette formule-là? Parce que c'est des passifs à chaque fois. Bon. Comme au ciel, ainsi sur la terre. Ensuite, B, nos besoins. Notre pain quotidien, donne-nous jusqu'au jour suivant. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi avons remis à nos débiteurs. Et garde-nous d'entrer dans la tentation, mais éloigne-nous du mauvais. Tout le monde suit bien sur la feuille? Voilà, hein, premier texte en haut. Bon, alors, vous voyez, je regarde ce texte que j'ai structuré. Qu'est-ce que je vois? D'abord, Dieu, quand il me demande de prier, il me dit, il faut que d'abord que tu t'intéresses à moi. Dieu d'abord, hein? C'est lui. Hein, sanctifié soit ton nom, ton règne, ta volonté. Donc, dans les trois premières demandes, il s'agit de Dieu lui-même. Et dans les quatre dernières demandes, il s'agit de nos espérances, de nos besoins, de nos difficultés. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première, c'est toujours, on prie notre Père pour le Père. C'est la finalité. Le but de notre vie, c'est Dieu. Donc on va toujours, vous voyez, ce qui est au terme, ce que dit saint Thomas d'Aquin, ce qui est au terme est au commencement. Il y a une formule à peu près comme ça. On va tout de suite vous dire, mais en fait, le but de tout le trajet du Notre Père, ça va être le Père. Pourquoi on va remettre les dettes? Pourquoi on va demander le pain? Pourquoi la volonté? Pour être en relation avec le Père. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est ce qu'on dit dans la prière eucharistique, là. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà. Et du coup, ce qui découle de ce premier point, Dieu nous dit, mais occupe-toi de moi avant de t'occuper de toi. S'occuper de Dieu avant de s'occuper de l'homme. Rien dans notre vie ne sera à sa juste place si on met pas Dieu à la première place. Hein? C'est ce que fait saint Ignace. Hein? Quand vous reprenez toutes les méditations de saint Ignace, les exercices spirituels, quand il fait des retraites, ben, il commence par exemple le numéro 23. Je prends ça là, vous l'avez pas, mais principe et fondement des exercices. Il commence comme ceci, donc pour qu'on soit bien d'accord sur le fondement, le principe des exercices spirituels, donc. Il dit ceci, l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D'accord? Ouais. Saint Ignace, il reprend en fait le schéma du Notre Père. L'homme est d'abord créé pour louer Dieu. Voilà, ça va être d'abord lui qui est important. Alors, ça d'accord, j'ai vu mon grand A, mon grand B. Maintenant, je regarde un peu plus près, je vais zoomer encore davantage. Qu'est-ce que je vois? Je vois que les trois premières demandes sont du bon côté, hein, celui de la gloire de Dieu, avec à chaque fois la deuxième personne du singulier. Les trois dernières demandes concerne toutes quelque chose, entre guillemets, du mauvais côté, avec les offenses, la tentation et le mal, voilà, et le mauvais. Hein? Donc trois premières. Et puis vous avez une demande centrale qui est un statut à part. Comme si cette demande centrale, hein, qui fait allusion à aucun mal, était comme une force pour nous permettre de combattre le mal, quelque sorte. Vous voyez? Vous avez d'abord Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu? Ben, il nous donne ce qu'il y a de plus précieux. Il nous donne quoi? Son Fils. C'est pour ça que j'ai mis Jésus à droite. Et son Fils me permet de combattre le mal. Hein, vous avez bien la feuille en entier, là? Je crois qu'il y en a. Regardez bien. Bon. Alors, quand je regarde de près, voilà. Je regarde de près, j'ai en fait le déroulement de tout l'Ancien Testament. Regardez les trois premières demandes. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord sanctifié ton nom. Quand vous parlez du nom, le nom, le nom, le nom, mais tiens, ça me dit quelque chose, ça. C'est Moïse qui dit, qui demande à Dieu, mais quel est ton nom? Et il répond, je suis celui qui suis. Hein? Donc le premier vraiment à parler du nom, c'est Moïse. Moïse est considéré comme un prophète dans l'Écriture, le premier prophète, le premier grand prophète. Ensuite arrive ton règne, le règne, la royauté. Pensez à qui comme personnage? David. Donc après le prophète, j'ai David le roi, hein, que vienne ton règne, que ta volonté soit faite. Qui est-ce qui est préoccupé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par la volonté de Dieu, par les commandements de Dieu? C'est le prêtre. Et voilà, le prêtre, donc ça c'est une troisième étape dans l'histoire du salut, hein. Après Moïse, après David, nous avons tous les discours avec les prêtres, les prophètes, d'ailleurs, et qui disent, attendez, il faut revenir à la loi, etc., avec ce sacerdoce qui est perverti. Bon. Du coup, on a en fait les trois éléments qui font le baptême, d'ailleurs, prophète, roi et prêtre. Prêtre, prophète et roi. Vous voyez? Dans ces trois premières demandes. Et à la fois, voilà, donc cette histoire du baptême, et en même temps, comme je vous dis, comme cette histoire du salut, on passe de Moïse au roi David et au prêtre. Voilà, qui doivent revenir dans le droit chemin grâce aux prophètes, voilà, au temps de l'exil. Donc j'ai comme trois temps, voilà, trois temps de l'histoire du salut. Cette histoire du salut, elle aboutit à quoi? Elle aboutit à Jésus. Et Jésus, c'est le pain qui vient du ciel. Jean 6, 35. Hein? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Quand il apparaît, tout d'un coup, le mal, on n'arrête pas d'en parler. Les démons, on n'en parle pas dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas des démons qui sortent toutes les 5 minutes des gens. Avec Jésus, ça n'arrête pas. Il y a des démons qui vont dans les cochons. Il y a un gars qui est possédé dès que Jésus entre dans la synagogue. Ça n'arrête pas. Ils sont. Mais parce que quand vous avez la lumière maximum, eh bien, qui est Jésus, Jésus la lumière du monde, tout d'un coup les ténèbres se révèlent. Mais tant qu'il n'y a pas la lumière, les ténèbres, elles ne se révèlent pas. Hein. Voilà. Donc vous voyez. Avec cette colonne de droite, là, je vous ai mis en fait tout un résumé de tout l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Toute l'histoire du salut est là. C'est assez impressionnant. Alors, nous avons sept demandes. Alors, sept, il faut réfléchir, c'est un chiffre qui est composé de trois et de quatre. Hein? Trois demandes qui concernent Dieu, quatre qui concernent l'homme. Ah ben oui. Trois, c'est le chiffre de Dieu, dans la Bible toujours, la Trinité, la perfection, trois. Hein? Bon. Il faut trois points pour définir un cercle. Hein? Et le cercle est en signe de l'infini. Et quatre, c'est le chiffre de l'humanité, de l'homme, les quatre points cardinaux. Voilà. L'appel des quatre premiers disciples dans l'Évangile, Simon, André, Jacques et Jean, comme pour parcourir le monde entier. Les trois premières demandes concernent Dieu, les quatre demandes dernières concernent l'homme. De même qu'il y a trois vertus théologales et quatre vertus cardinales. Hein? Vertus théologales qui concernent Dieu et quatre vertus cardinales qui concernent l'homme. Donc on est en train, vous voyez, avec ce chiffre 3 et 4 associés, de nous dire que cette prière, en quelque sorte, c'est une prière qui signe une alliance entre Dieu et l'homme, entre le chiffre 3 et le chiffre 4. Nous sommes dans les noces, voilà, entre Dieu et l'humanité. Hein, quand on prie notre Père, eh bien, on dit à Dieu, on veut bien de cette alliance avec toi. Ça va? Bien. Alors, on va commencer donc les trois premières demandes. Et avant la première, nous avons d'abord notre Père des cieux. Donc, je m'intéresse d'abord à ce mot de Père. Et Jésus ne dit pas, vous pourriez dire cela, ce serait bien. Non, c'est un impératif, dites Père. On voit que dans la liturgie, par exemple, dans le missel. On ose dire, nous pouvons dire notre Père. Sous-entendu, c'est pas évident, c'est pas naturel de dire notre Père. Il y a comme un souci derrière en creux. En effet, c'est assez inouï d'appeler Dieu Père. Vous avez quelques exceptions dans l'Ancien Testament. Par exemple, le psaume 89, verset 27. On arrive à nommer, à dénommer le Dieu en l'appelant Père dans l'Ancien Testament, mais on ne l'invoque rarement, pratiquement jamais, en tant que Père. Vous voyez ce que c'est la différence entre dénommer et invoquer? On va dire, tu es le Père qui nous a fait passer la mer. Mais on ne va pas s'adresser directement, voyez, en disant, notre Père, toi, mon Père, notre Père. Dieu est le Père d'Israël. Mais c'est pas pareil de dire notre Père. Pourquoi on n'a pas trop ce mot de Père dans l'Ancien Testament? Enfin, dans la prière, bon. Parce qu'on veut se démarquer des façons païennes d'appeler Dieu. Et vous savez que les païens, il y a des tas d'histoires de coucheries entre des dieux, des déesses ensemble, etc. Bon. Et du coup, on s'en écarte. Et donc, on va prendre d'autres formules. Hein. Le Dieu des armées, le Seigneur, le Très-Haut, le Nom. Voilà. Mais on se garde bien. Alors, comment est Dieu est Père dans l'Ancien Testament? Il est celui qui a fait passer le peuple d'Égypte, il l'a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui lui a donné la loi. Mais, vous voyez, c'est à chaque fois un rapport un petit peu collectif. C'est pas très personnel. Voilà. D'ailleurs, on veut lapider Jésus car il appelle Dieu son propre Père. Aussi, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer puisque, non content de violer le Shabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jean 5, 18. Alors, pour nous, qu'est-ce qui nous permet de nous approcher, de pouvoir dire Père, Abba, comme Jésus le dit dans sa passion, hein? Il dit Abba, Père, si cette coupe pouvait s'en aller de s'éloigner de moi. Et comme saint Paul le dit, vous qui avez reçu l'Esprit, vous pouvez dire, vous osez dire notre Père, Père. Eh bien, ce qui nous permet de dire Père, c'est grâce au Fils. Nous avons reçu un héritage, cet héritage c'est l'Esprit Saint, hein, qui nous permet de nous adresser au Père comme Jésus s'adresse au Père, avec le même Esprit. Vous avez une histoire dans l'Évangile, en Marc chapitre 12, versets 6 à 9, vous savez la parabole des vignerons homicides. On en voit, voilà, des serviteurs, et les serviteurs sont le symbole des prophètes, et qui vont chercher auprès des vignerons, les serviteurs du roi, auprès des vignerons, la récolte, les fruits, et à chaque fois les vignerons, ils assassinent. Alors, à un moment donné, il lui restait encore quelqu'un, un fils bien-aimé. Tiens, bien-aimé, ça me dit quelque chose, ça. Et il le leur envoya le dernier en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons se dirent entre eux, celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et le saisissant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Point d'interrogation. Et ils répondent, il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Le père a envoyé son fils. Est-ce que le père a fait périr les vignerons? Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a tué le fils. Hein. Est-ce qu'il a fait périr Pilate ou les autres? Non. Il voulait l'héritage. Ils se dirent entre eux, celui-ci est l'héritier, venez tuons-le. Alors c'est complètement absurde, hein. Tu vas tuer le fils, tu vas avoir l'héritage. Tu vas pas avoir du tout l'héritage. C'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas. Quand on tue quelqu'un, on n'a pas l'héritage. Le père, il est pas fou. Ben si. En fait, en Jésus, si. On a tué Jésus et on a eu l'héritage. On a eu l'Esprit Saint. Il a dit, faut que je m'en aille, faut que je vous envoie le paraclet. Il faut que je meure, faut que vous mettiez à mort. pour que je vous donne le paraclet. En fait, on a fait exactement ce qu'il y a dans la parabole, mais les conséquences, c'est qu'on n'a pas péri, on a été sauvé. Dieu s'est servi d'un mal, notre mal, pour nous faire vivre. Bon, après, il faut accepter ce salut, mais les faits sont là. Normalement, quand on met à mort Dieu, c'est l'abomination de la désolation et tout le monde doit périr. Mais Dieu a retourné ça en nous donnant son Fils, en nous donnant l'Esprit. Voilà, hein. Puisque vous êtes fils cohéritier dans le Christ, alors vous avez l'Esprit. Vous reprenez tout l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates, Romains 8, Galates 5, vous avez tout ça en détail. Voilà, et c'est pour ça que le Notre Père est à ce moment-là dans la messe. Hein. Une fois que nous avons vécu le sacrifice, que j'ai offert le sacrifice, par lui, avec lui et en lui, à ce moment-là, le sacrifice est terminé, nous pouvons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, les pères de l'Église disent, le Notre Père, c'est un peu un résumé de l'Évangile. On pourrait très bien avoir le Notre Père à la suite de l'Évangile ou des lectures, puisque on a un résumé. Non, on a choisi comme résumé le credo. Le credo, c'est un peu le résumé de toute écriture. Bon. Mais on l'a pas mis là, on l'a mis donc après l'offrande pour bien montrer que c'est grâce à l'offrande du Fils que nous pouvons nous adresser au Père. Ce qui veut dire que un non-baptisé, en théorie, ne peut pas dire le Notre Père. Prenez le texte numéro 1 dans votre feuille. Je le lis. Nous n'enseignons pas cette prière aux non-initiés, mais seulement aux initiés. En effet, aucun de ceux qui ne sont pas encore initiés n'oserait dire « Notre Père dans les cieux », puisqu'il n'a pas encore reçu le don de l'adoption filiale, donc l'Esprit Saint. Mais celui qui a reçu le don du baptême peut invoquer Dieu comme son Père, puisqu'il est admis parmi les fils de la grâce. Ce qui veut dire que quand, à des catéchumènes, on leur donne le Notre Père, à un moment donné, ça se donne durant le carême, on leur dit que vous allez devoir apprendre le Notre Père. On leur donne aussi le credo. Alors, le credo, il va y avoir le samedi saint, ce qu'on appelle la reddition du credo. Donc on a eu deux catéchumènes, ils ont redit le credo, samedi saint. Par contre, on leur a transmis le credo qu'ils ont appris par cœur, ils nous le redonnent, ok. C'est important, parce qu'avant d'être baptisé, si vous croyez pas en Dieu, ça pose problème. Par contre, on ne leur demande pas de nous redire le Notre Père. La première fois qu'ils vont dire le Notre Père, ils vont le dire à la vigile pascale, une fois qu'ils seront baptisés. Ils pourront dire Notre Père en vérité. Bon, dans les faits, un non-baptisé dit le Notre Père. Mais ce qu'on est en train de nous dire, c'est que on fait la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. On veut dire que le baptême crée quelque chose de nouveau dans la personne. C'est quoi? C'est le don de l'Esprit de Jésus. Hein? Jean 17, 21. Je veux que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour dont tu m'as aimé, c'est quoi l'amour dont tu m'as aimé? Ben, l'amour dont tu m'as aimé, c'est l'Esprit Saint. Donc, je veux que ton esprit, hein, cet échange qu'on a ensemble, et cet échange qui est tellement fort qu'il est une personne, eh bien, je veux que cette personne, eh bien, soit dans chacun de tes enfants que tu m'as donnés. Hein? Ils sont à toi, mais tu me les as donnés. Voilà, vous reprenez Jean 17. Romains 8, 14. En effet, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfant et donc héritier. Héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire que j'ai l'Esprit Saint qui me permet de dire « Abba, Père » ? C'est pas simplement le dire du bout des lèvres, c'est toute ma vie qui est comme qui me donne vis-à-vis de Dieu un nouveau statut. C'est pas simplement, bien sûr, un non-croyant, il peut dire Père, il peut dire le Notre Père. On est tous capables. Mais dire, c'est vivre, hein, dans la Bible. Alors, je vous invite à prendre le texte numéro 2. L'expérience de la prière chrétienne, une grâce plus qu'un texte. Donc qui est-ce qui parle de ça? C'est donc Raniero Cantalamessa, hein. C'est le prédicateur au Vatican. En venant en nous, l'Esprit ne se limite pas à nous enseigner comment il faut prier, mais prie en nous. De même qu'au sujet de la loi, il ne se limite pas à nous dire ce que nous devons faire, mais le fait avec nous. L'Esprit ne nous donne pas une loi de prière, mais une grâce de prière. La prière biblique ne vient donc pas à nous par un apprentissage extérieur et analytique, c'est-à-dire parce que nous cherchons à imiter les attitudes que nous avons rencontrées en Abraham, Moïse, Job et en Jésus lui-même, même si tout cela va être également nécessaire et requis dans un second temps. Mais vient en nous par infusion comme don. C'est cela la bonne nouvelle au sujet de la prière chrétienne. Le principe même de cette prière nouvelle vient à nous. Et ce principe consiste en ceci, que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba Père. C'est cela prier dans l'Esprit ou par l'Esprit. Vous voyez, il n'y a pas tellement de nouveauté dans le contenu de la prière du Notre Père. Ce n'est pas tellement en termes de nouveauté. C'est plutôt en termes d'une capacité nouvelle. Je suis capable de m'adresser au Père du ciel comme Jésus. J'ai le même esprit. C'est fou. Bon. Je suis aimé de Dieu comme une personne unique. Je n'ai pas, du coup, il y a des tas de conséquences, vous voyez, enfin, je n'ai à plaire à personne, voilà, j'existe dans ton regard, du coup, quelle liberté pour moi. Alors, je dis Père, mais je dis aussi notre Père. Très curieux, on pourrait dire mon Père qui est aux cieux. Or, on dit notre. Pourquoi la découverte du Père est aussi une découverte des frères? On le voit bien dans la parabole du fils prodigue. Le fils aîné n'a pas découvert le Père. Le fils aîné, vous êtes d'accord? Parce qu'il parle de son père comme d'un patron. Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Voilà. Je m'intéresse à notre, hein, là, maintenant. Il n'a pas découvert son père. Il a un patron. On voit bien, hein, il n'y a pas l'esprit, hein, là. Ils n'ont pas le même esprit, hein. Ça ne communique pas entre les deux. Du coup, il n'a pas découvert son frère. Son frère revient, il dit, moi, j'en veux pas. Je vais quitter la maison. Je vais sortir. Il sortit, le père sort pour lui demander d'entrer, mais il dit, voilà tant d'années que je te sers, voilà. Donc, quand le fils, le plus jeune, rentre, l'aîné s'en va. Et donc, le père, il n'a jamais les deux ensemble. Tant que tu n'as pas découvert le père, tu n'as pas découvert tes frères. Je pense à cet épisode de Pierre Goursat. Donc le fondateur de l'Emmanuel, qui a vécu, il faisait partie d'un groupe de prière, d'oraison, avec le père Caffarel. Et ils font un week-end à Troussure, avec un week-end sur l'oraison. Et puis le père Caffarel, donc celui qui a fondé les équipes Notre-Dame, avait invité un couple, j'ai plus leur nom en tête, bon, les pères, voilà, Michon, Pichon, voilà. Un couple qui était allé aux États-Unis, qui avait vécu quelque chose de fort au niveau charismatique, et qui est revenu témoigner, donc, lors de ce week-end spirituel ils étaient un petit groupe. Et il y avait notamment dans ce petit groupe une certaine Martine Cata, peut-être entendu parler, voilà, qui s'appelait Lafitte à l'époque. Bon. Et alors, c'est intéressant parce que, en fait, ils ont vécu ce 13 février 1972, ce qu'on appelle une effusion de l'Esprit-Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre Goursat avait déjà vécu une conversion à l'âge de 18 ans, assez fort. Il avait senti qu'il était orgueilleux, qu'il avait, voilà. Donc il avait quand même rencontré Jésus. Il voulait évangéliser. Notamment, il était rentré dans le cinéma pour ça, pour évangéliser à travers la culture et tout. Mais ça ne marchait pas. Pendant 40 ans, ça n'a pas marché. Et il se sentait en fait assez seul dans ce combat. Et qu'est-ce qu'il dit? Enfin, c'est pas lui qui le dit. Si, c'est lui. Enfin, c'est voilà, c'est Martine. Donc, cette personne-là, qui était beaucoup plus jeune que lui, lui avait 58 ans, elle avait une vingtaine d'années. Le soir, dit encore Martine, nous étions tous dans l'entrée de cette grande maison et nous nous disions au revoir avec une joie profonde, très forte, comme si nous n'avions pas envie de partir. Je me rappelle, ajoute-t-elle, que lorsque Pierre et moi nous sommes dit au revoir, j'ai rencontré Pierre et à ce moment-là, nous sommes devenus frères et sœurs. Et Martine commente dans un enseignement, elle dit « Pierre, avec l'effusion de l'Esprit-Saint, a reçu une grâce fraternelle. Il avait dans son cœur que le renouvellement de l'Église ne pouvait passer que par une association de chrétiens entre eux. » Voilà. Donc vous voyez, à partir de ce moment-là, ils sont devenus frères et sœurs. Il a reçu une grâce fraternelle. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le même groupe, ils avaient un groupe d'oraison, etc., mais apparemment comme s'ils consommaient un produit religieux, quoi. On a des conférences sur la, je sais pas quoi, sur la prière. Mais ce week-end où ils ont prié les uns pour les autres, qu'ils ont eu cette grâce d'effusion de l'Esprit Saint, les a fait basculer et ils sont devenus frères et sœurs. Et donc c'est tout l'enjeu, vous voyez, de l'Église, de nos paroisses, hein. C'est comment elles vont passer d'un groupe de croyants à des frères et sœurs. Voilà. C'est à quoi, c'est à ça qu'on travaille. Bon. Voilà. Ça va pour le nôtre? Bon. Alors, notre Père, on peut aller plus loin, hein, quand on réfléchit. En fait, on réfléchit que toute notre vie, nous la recevons, même notre vie spirituelle, nous la recevons des autres. Je vous signale que j'arrive à dire Père parce que j'ai ce, comment dire, j'ai l'Esprit Saint en moi, hein, ce qu'on vient de dire. Qui me donne l'Esprit Saint? C'est l'Église. Donc je peux dire Père grâce à l'Église, grâce à des frères qui m'enfantent, qui me donnent la vie. La foi, on la reçoit. Voilà, c'est pas comme ça, dans la rue, tout d'un coup, t'as la foi. Il y a bien une transmission. Donc je ne peux m'adresser au Père que parce que j'ai des frères. Hein, théologiquement, c'est assez fort et c'est très réaliste. Ce qui veut dire deux choses, deux conséquences pratiques. La foi se vit ensemble. Et la foi passe par les autres. La foi se vit ensemble et la foi passe par les autres. Je l'ai dit quand j'ai fait une homélie sur le sacrement de mariage il y a 15 jours, sur la vigne. Et je disais être attaché à la vigne. Et la vigne, c'est en fait Israël. C'est aussi l'Église dans la Bible. Donc être attaché à la vigne, hein, je suis la vigne, vous êtes les sarments, c'est pas simplement être attaché à Jésus, c'est être attaché à l'Église. Ça va? Et je disais donc, à propos des couples, par exemple, que un couple ne doit pas simplement, quand il dit « moi je suis attaché à la vigne, je suis attaché au Seigneur », pas simplement se dire « je suis attaché à Dieu en dehors de mon couple ». Et les gens, ils sont très croyants. Mais en fait, c'est toujours extérieur à leur couple. Vous voyez, ils vont, par exemple, je sais pas quoi, faire des tas de retraites, lire des tas de livres spirituels, faire des tas de groupes, mais entre eux, ils n'ont pas compris que Dieu voulait se donner à travers l'autre. Soit dans la croix, soit dans la joie. Parce que c'est bizarre, vous voyez tel couple, par exemple, très croyant, qui pète tout d'un coup... Enfin, tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup, mais enfin, il part comme ça en l'air. Vous dites, c'est bizarre, parce que quand même, ils étaient très spirituels, les deux. Oui, mais les deux, ils avaient leur vie spirituelle de chaque côté. Ils n'ont pas compris que la sainteté, elle se vivait dans la maison. Ils pensaient que la vie spirituelle se vivait à l'extérieur de la maison. Vous voyez? Non, être attaché à la vie, c'est être attaché à l'autre qui me donne le Christ. Mais pas comme je voudrais. C'est plus agréable de recevoir le Christ dans un monastère. Ça, c'est très agréable. Oui, c'est sûr. Ça fait chaud au cœur, il y a le chant des moines. C'est plus désagréable dans un couple, parfois. Vous voyez? Mais on bouge davantage, à mon avis, en étant dans un couple, comment dire, en étant dans un certain réalisme et en prenant les problèmes de front, en traitant les problèmes, plutôt qu'être un petit peu à faire des retraites, on est un petit peu dans l'imaginaire. Vous savez, quand les gens font des retraites, souvent, ils entendent ce que Dieu Enfin, ce qu'ils veulent entendre de Dieu, quoi. C'est comme quand vous faites une homélie, vous faites l'homélie, puis après les gens vous disent ce qui m'a touché, c'est ça. Attendez, mais j'ai pas dit ça, moi. J'ai dit le contraire de ce que vous avez entendu là. Bon, voilà. Donc, bon, là c'est un peu une digression, hein, mais enfin bon. Alors, faut avancer, donc je vais avoir du retard. Hein. Donc, notre Père qui est aux cieux. Alors, qui est aux cieux ou du ciel. Prenez le texte numéro 3. Cette expression biblique, donc c'est le catéchisme, ne signifie pas un lieu, l'espace, mais une manière d'être. Non pas l'éloignement de Dieu, mais sa majesté. Notre Père n'est pas ailleurs, il est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir de sa sainteté. C'est parce qu'il est trois fois saint qu'il est tout proche du cœur humble et contrit. C'est avec raison que ces paroles « Notre Père qui est aux cieux » s'entendent du cœur des justes, où Dieu habite comme dans son temple. Par là aussi, celui qui est pris désirera voir résider en lui celui qu'il invoque. Moi, vous voyez, j'avais jamais compris ça jusqu'à ce que je bosse le truc. Moi, je pensais que notre Père qui est aux cieux, bah, il était loin, quoi. On est en train de te dire que l'expression, c'est le catéchisme, hein, j'invente pas, c'est pas un théologien de quartier. On est en train de te dire que les cieux, c'est ton cœur. Vous imaginez le nombre de gens qui à la messe disent leur cette parole-là sans la comprendre, hein, c'est quand même fort, non? Notre Père qui est aux cieux, c'est notre cœur. Ça veut dire que je vais garder. En fait, faut un peu les deux en fait, en quelque sorte. Faut tenir que Dieu est tout proche de nous. C'est ce qu'on appelle le don de piété filiale. Il est en moi. Hein, je comprends à travers le catéchisme que je dois bien intégrer que le Dieu, il est en moi. Bon. Mais en même temps. Par cette expression, notre Père qui est aux cieux, notre Père des cieux, je vais vous dire pourquoi on dit des cieux, ça veut dire que aussi Dieu est quand même loin. Hein? Et c'est le don de crainte. Il faut toujours associer les deux dons. Le don de piété, c'est la proximité, hein? C'est toute la voix de la petite Thérèse qui parle d'un Dieu proche, etc. Mais aussi le Dieu qui est loin, qui est grand. Ça, vous prenez le livre d'Isaïe au chapitre 6, hein? Isaïe dans le temple, il dit « Mais comment, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Pierre, mais éloigne-toi de moi, Seigneur, je ne peux pas. Hein? » Vous allez chez les sœurs de Bethléem, c'est très fort, vous voyez ça, dans des monastères, se mettent à plat ventre, vous dites « Mais c'est pas possible, il y a Dieu qui est en train de tomber sur elle, là, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, mais non, mais c'est parce que notre Père, il est aux cieux. Il est grand. Attention, hein, c'est pas un copain, hein, bon. Et puis, notre Père des cieux. Pourquoi des cieux? Parce qu'on veut distinguer le Père du ciel et le Père de la terre. Vous avez ça avec Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Vous qui êtes, vous êtes père, mais voilà, on fait la distinction entre le Père du ciel et le Père de la terre. Vous voyez, quand François d'Assise, par exemple, va donner tous ses vêtements, hein, qu'est-ce qu'il dit? Désormais, je n'ai plus qu'un père, et je puis lui dire en vérité, notre Père qui est aux cieux. Donc l'idée c'est de distinguer le Père du ciel de nos pères terrestres aussi à travers cette parole. D'ailleurs les Juifs le disent quand ils disent mais nous avons un père, c'est Abraham notre père. Non, moi je vous parle pas du père de la terre, je vous parle pas d'Abraham, je vous parle d'un autre père. Il est autre. Oui, quand vous parlez du père, vous avez en tête Abraham, mais c'est autre chose là. Je vous parle d'autre chose. Voilà. Pour un juif, notre père, c'était Abraham. C'était pas le père du ciel. Alors, ce qui veut dire que pour nous, voyez, je distingue bien le père du ciel de la paternité terrestre. Hein? Vous avez cette formule, Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un, vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Alors quand les gens viennent me voir, pourquoi on ne doit pas vous appeler Père? Parce qu'il y a marqué dans la Bible, il ne faut pas appeler Père. Je leur dis, vos enfants, ils ne vous appellent pas Père? Ben si, ils m'appellent Père. Bon, ben, alors il faut arrêter de leur dire de vous appeler Père aussi, alors. Dans ces cas-là, personne ne doit appeler Père. L'idée, c'est pas... L'idée, c'est que la paternité, c'est Dieu qui nous conduit. Et le vrai berger, le vrai pasteur, c'est-à-dire moi ou vous, quand vous êtes parents, eh bien, vous devez conduire à l'unique berger qui est le Père du ciel. Ça veut dire qu'un prêtre, il ne va pas gouroutiser, se débrouiller pour que, par exemple, un curé de paroisse, quand il s'en va, qu'il soit indispensable, vous voyez. Il va s'arranger pour que tout le monde dise, vous voyez, quand c'était moi, c'était vraiment mieux. Enfin bon, vraiment. Vous voyez, il va tout faire pour qu'en partant, le suivant réussisse mieux que le précédent. Moi, je faisais partie d'une session, les 25-35, là, et j'étais un peu l'aumônier, parrainmonial. Et je me suis rendu compte que, en fait, avec le temps, j'avais une certaine habitude, et du coup, implicitement, j'infligeais. Hein? Ça va, c'est bon? Infléchir. J'infléchissais. J'infléchissais les décisions de mon côté. Et je me suis dit, Paul, il faut que tu partes. Il faut plus que tu sois responsable parce que sinon ils vont faire toujours la même chose chaque année. Quand vous avez une certaine habitude, plus vous avez des accents, vous voyez, tac. Bon. Et donc je suis parti. Bon. Donc voilà, être un père, c'est être capable de partir. Hein, le problème des communautés nouvelles, c'est toujours le problème du responsable. Comment va-t-il partir? Est-ce qu'il va partir tôt ou tard? Et quand il part, est-ce qu'il va vraiment partir? Ou est-ce qu'il va continuer? Il faut que je diminue pour que lui grandisse. Voilà. Mais voyez, il me semble qu'il y a tout ça dans ce Notre Père qui est dans les cieux, Notre Père du ciel. Bon. Que ton nom soit sanctifié. Alors, le nom, c'est une manière de parler de Dieu. Hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On n'aime pas prononcer le nom de Dieu. Vous savez, c'est le grand prêtre qui prononce le nom une fois par an. Donc, dans nos Bibles, on a Yahvé. Mais Yahvé, c'est le tétragramme. D'ailleurs, le pape Benoît XVI a dit, vous me remplacez Yahvé, c'est pas bon, remplacez par Seigneur. Parce que Yahvé, c'est nom imprononçable. Donc, si tu le nom imprononçable, tu le prononces quand même, ça revient au même. Hein? C'est pas je suis. Oui, mais je suis, mais oui, mais en même temps, ce nom-là, si vous voulez, c'est un nom sans être un nom. En gros, ça veut dire je suis, mais ça veut dire aussi, écoute, laisse tomber, quoi. Je suis celui qui serait, la traduction littérale. Ça veut dire, tu vas voir qui je suis en fonction de ce que je vais faire. Je suis qui je serai, tu vois. C'est en marchant avec moi, tu comprendras qui je suis. Mais le nom de Dieu, il est tellement grand qu'on ne le prononce pas. Seul le grand prêtre prononce une fois par an, dans le Saint des Saints, ce nom, et demande la rémission des péchés pour le peuple. Mais donc à chaque fois, vous voyez, dans la Bible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va changer et remplacer ce nom par le Dieu des armées, le nom, etc. Hein? Philippiens 2, Dieu l'a gratifié d'un nom supérieur à tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Bon. Donc, ce nom qu'on ne prononce pas, voilà, qui est un petit peu au-delà de tout, on nous dit qu'il doit être sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est un verbe au passif. Un verbe au passif sans complément, c'est-à-dire un passif divin. Je veux que tu sanctifies ton nom. C'est toi qui vas sanctifier le nom. C'est ça le principe du passif dans la Bible. C'est en sanctification, c'est toi qui vas l'opérer et tu vas l'opérer en nous. Alors, pour ça, je vous ai donné un texte qui est le texte numéro 4. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est en exil et Dieu dit, vous avez blasphémé le nom de Dieu aux yeux des païens. Vous n'avez pas reconnu votre péché et la justice du châtiment. Voilà. Vous avez fait n'importe quoi. Et alors, vous êtes parti en exil et tous les païens, ils disent, mais pff, ce peuple-là, il est minable. Il est minable. D'ailleurs, regardez, on a pu les assiéger et puis on les a tous emmenés esclaves là-bas. Et c'est embêtant parce que ce peuple, il se dit qu'il a un Dieu protecteur. Hein, ce Dieu qui marche avec ce peuple. Je suis qui je serai, je veux marcher. Mais en fait, il marche pas du tout. Bon. Alors Dieu répond hein, et en disant ceci, Ézéchiel 36, je vous lis. « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations et au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur. Quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux, alors je vous prendrai parmi les nations et je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre sol. » Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos ordures. Je vous purifierai. Comment Dieu sanctifie le nom? Hein, je lis. Eh bien, il sanctifie en ramenant sur la terre, en donnant l'Esprit Saint, en purifiant des péchés, c'est-à-dire en pardonnant. D'accord? Donc la sanctification du nom, c'est pas de jouer de la guitare à la messe, mais c'est de laisser Dieu nous purifier, nous pardonner. Comment tu sanctifies le nom de Dieu? Eh bien, quand tu vas te confesser, par exemple. Voilà. Là, tu permets à Dieu de te purifier, de répandre sur toi une eau pure. La sanctification du nom, c'est donc l'œuvre du Fils. Voilà. Que ton règne vienne maintenant. Hein? Alors, que ton règne vienne, je vais distinguer trois choses, la royauté, le règne et le royaume, pour être simple. Hein? Bon, vous avez quoi? Vous avez un roi. Ce roi, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il va régner. Il exerce son pouvoir royal, Jésus est Seigneur, sur des personnes, et ces personnes-là, ça forme un royaume. Hein? Donc, un roi qui règne, et cela forme un royaume. La royauté s'exerce par le règne sur un royaume. Donc, que ton règne vienne, c'est bien, hein? C'est pas, le mot royaume serait pas adapté, hein? Que ton règne vienne, c'est-à-dire que ta toute puissance s'exerce sur nous pour que nous formions ce royaume. C'est-à-dire que ta volonté soit prise en compte. Qu'on soit vraiment dans tes désirs. Que ces sept demandes du Notre Père, nous les fassions nôtres. Voilà. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je disais sur la paternité. Le règne de Dieu, c'est permettre à Dieu de régner et pas nous. C'est Dieu qui règne, c'est pas nous. Bon. Que ton règne vienne, faudrait plutôt dire arriver, que ton règne arrive. Pourquoi? Ben parce que arriver veut dire qu'il est très proche. Vienne, ça veut dire qu'il est toujours pas parti. Hein? Arriver, ça veut dire proche de la rive. Et qu'est-ce que je lis hein, dans l'évangile? Je lis, par exemple, Matthieu 3, 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Il est tout proche. Hein, chapitre 10, « Guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche. » Voilà. « Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. » Bon, il est à notre porte. Il est, voilà. Que ton règne arrive veut dire qu'il est déjà en route et qu'on touche au but. Mais c'est lui, c'est un passif. Toujours on est dans le passif divin. Mais c'est lui à condition c'est lui qui fait cette œuvre. Quand je vais me confesser, c'est pas moi. Après, moi j'ai une petite œuvre quand même. Je vais au confessionnal, je fais mon petit examen de conscience et je fais une pénitence. Donc je coopère. Mais la coopération, enfin voilà, notre œuvre, elle est quand même plus limitée Aimer Dieu, c'est permettre à Dieu de faire son œuvre en nous. C'est toute la, c'est le béaba de la vie spirituelle. Hein. Bon. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, la question, c'est quelle est la volonté de Dieu? On distingue, en fait, le mot volonté, la racine hébraïque, sous-jacente au grec, distingue deux choses. Donc la racine hébraïque sous-jacente au grec, le grec c'est téléma, et la racine hébraïque c'est ratson. Bon, en dessous de téléma vous avez ratson. Le mot ratson, ça désigne à la fois la volonté divine, qui s'exprime dans les commandements, mais aussi le dessein de Dieu. En quelque sorte, vous avez, comment dire, la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce qu'il veut de manière large, son dessein. Donc que ta volonté soit faite, ça veut dire que ton plan d'amour soit fait. Et cette volonté de Dieu, elle va passer par ses volontés. La volonté de Dieu passe par les volontés de Dieu, ce qu'on appelle les commandements. Donc le mot grec, voyez, enfin le mot juif, hébraïque là, il a à la fois ce sens de plan, projet, que ton projet soit fait, et aussi que tes volontés, tes lois soient suivies. Vous suivez? Hein? Bon. Hein? C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9. « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. Hein? » Le mystère de sa volonté, c'est quoi? Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. Ah oui, Dieu veut que tout, eh bien, soit ramené... Que Dieu règne, en fait, voilà, hein, sous le seul chef qu'est le Christ. Bon. Le catéchisme, au numéro 2822, dit, 2822, c'est la volonté de notre Père que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, donc, que ta volonté soit faite, c'est que tous les hommes soient sauvés. Voilà. C'est tout. Et là, c'est pareil, c'est un passif. Qui est-ce qui va faire que tous les hommes vont être sauvés? Ben, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui sauve les hommes. Donc, vous voyez, que ta volonté soit faite, ça veut dire qu'on demande au Seigneur que tous les hommes soient sauvés. Voilà. Et pour nous, eh bien, ce salut passera par l'obéissance aux volontés de Dieu. Hein, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, par l'obéissance aux volontés de Dieu, par l'obéissance aux commandements. Voilà. Que ta volonté soit faite, c'est aussi peut-être une interrogation à avoir. Hein, est-ce que je fais la volonté de Dieu ou est-ce que je fais ma volonté à moi? Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu? Est-ce que je fais l'œuvre de Dieu ou est-ce que je fais des œuvres pour Dieu? Bon. Il y a des tas de gens qui font des tas de trucs dans l'église, qui sont des œuvres pour Dieu, mais en fait, Dieu ne leur demande pas ça. Tu as une famille, tu as 5 enfants, je sais pas trop, je prends des exemples. Bon. Mais tu es responsable de 10 associations, là. C'est peut-être pas... moi, je fais des choses pour Dieu, mais peut-être que Dieu, il te demande pas ça. Il peut-être me demande d'en faire une association et pas 10. Et puis, de t'occuper de tes enfants qui sont là. Bon. Ou alors, tu fais tel service, mais peut-être que Dieu, il te demanderait de faire autre chose. Qu'est-ce qu'il veut? Pour le salut du monde et ton propre salut, qu'est-ce qui est bien? Bon. Donc c'est tout ce qu'on appelle le discernement entre les œuvres de Dieu et les œuvres pour Dieu. On peut faire des choses pour Dieu, hein, mais qui ne sont pas de Dieu. Luther, Calvin, ils ont fait des grandes œuvres pour Dieu. Hein. Enfin, ils ont mis l'Église dans le fossé, donc c'est pas terrible. Mais ils travaillaient pour Dieu, ah oui, beaucoup, beaucoup. Ils arrivaient à être très généreux pour Dieu. Bon, voilà. Alors, les symptômes de ceux qui font des œuvres pour Dieu sans Dieu, Alors je note comme ça, parce que je relis ma vie, hein, toujours une confession en direct. Je fais donc ce que j'ai pensé devoir faire, quoi que Dieu en pense. En général, je prends les décisions seul. Je m'ouvre peu à l'autre. J'en parle pas tellement aux autres, en fait. Quand je décide, c'est toujours tout seul. Quand les gens ne sont pas d'accord avec moi, je me dis qu'ils comprennent pas. Je me crois un peu comme Jésus, seul, à Gethsémani, à combattre contre tout le monde, même les chrétiens qui n'ont rien compris. Je suis souvent dans l'activisme. Voilà. Bon. Ensuite, les quatre dernières demandes. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Aujourd'hui d'abord. Donc aujourd'hui, c'est l'exemple qui nous est donné de la manne, voilà, hein. Exode 16. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. » Dieu demande à son peuple d'être quelqu'un qui ne prend pas de réserve, qui ne fait pas de réserve par rapport à la manne, donc qui vit dans cet abandon au quotidien. Donc, quand je dis « donne-nous aujourd'hui notre pain », avec ce mot « aujourd'hui », en fait, c'est une invitation à vivre de la providence, à vivre dans l'aujourd'hui sans inquiétude. Voilà. Vive l'instant présent. Hein. Le présent, c'est comme la douche. Si on n'y est pas, on n'est pas mouillé. Bon. Voilà. Dieu n'est qu'au présent. Voilà. Donc, par exemple, vous avez des tempéraments, je remarque, hein, des gens toujours un petit peu inquiets, tout le temps. Mais des gens inquiets, vous voyez, c'est fatigant pour leur entourage, pour la communauté. Voilà. Des gens qui vivent dans le présent, ils sont abandonnés. Voilà. Vous voyez, bah, on verra bien. Moi, je ne sais pas très bien ce qui va se passer dans 3 mois, mais ce n'est pas très très grave. Dans notre vie, on peut être inquiet, hein, à des moments... Quand il y a une maladie, quand il y a un décès, voilà. Mais, vous voyez, je ne peux pas toute ma vie être dans l'inquiétude. C'est un comportement qui n'est pas juste, parce que c'est un commandement de Dieu. Matthieu 6, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, etc. Donc, vous voyez, la personne qui s'abandonne, elle sait qu'elle a un Père, le Père du ciel, première demande. Ensuite, elle demande le pain de chaque jour, donc... Elle vit dans un certain abandon. Et le problème de la vie charismatique, c'est qu'on n'est pas là à faire 40 réunions pour accoucher d'une petite cerise. Souris. mais non, on est là et puis le Seigneur va donner au bon moment et puis on va faire la prière, on va faire la louange, puis on verra bien les chants et puis on va prendre des chants au hasard et ça va marcher, quoi. Oui, c'est beaucoup plus détendu, les gens charismatiques, que les gens stressés. Voilà. Bon. Alors voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, le pain de ce jour, c'est assez compliqué à comprendre ce que ça veut dire. Donc, je vous donne un commentaire. Vous prenez le texte numéro 5. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça traduit le mot « épiousios », qui est un mot unique dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire qu'il n'est pas employé à d'autres endroits. Quand le mot est employé à d'autres endroits, ben on compare, on se dit « Ah ben tiens, c'est ça que ça veut dire, par recoupement. » Mais quand il est employé qu'une fois, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Alors un bon exégète dit ceci. Les exégètes ramènent souvent le débat à un problème étymologique. Soit que l'on fasse dériver « épiousios » des « pénai », « être sûr », ou dépiennaille, aller sur, suivre. Si l'on retient la première explication, on aboutit au sens dégagé par Jérôme en Matthieu, supersubstantiel ou surnaturel. Donc on demande le pain supersubstantiel, supernaturel, du gros pain. Voilà, de la grosse substance, du pain très nourrissant. Si l'on retient la seconde explication, on s'oriente vers un sens temporel, le pain du jour suivant. Le pain du lendemain. Donc là, c'est pas la grosseur, c'est un pain qui va me permettre d'aller au jour suivant. L'une et l'autre explication ont leurs partisans, mais aucune considération étymologique ne paraît s'imposer. Alors, je vous ai mis en dessous Jean 6, 58, qui, à mon avis, rassemble en fait les deux sens. Quand il dit, voici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Qui mange ce pain vivra à jamais. Vous voyez, Saint Jean, dans cette phrase, il y a les deux sens. Nos pères, ils ont mangé un pain, mais le pain, il n'était pas très nourrissant. Non, le pain que mon père vous donnera va être très nourrissant. Et ce pain, on en vivra à jamais. Donc il y a aussi cette idée de temps. Voilà. Donc on peut traduire, vous voyez, le pain qui nous permet d'aller au jour suivant. Hein? Et alors du coup, Epiosa et Mera, bon, qui signifie le jour qui vient, si on est le matin, on va dire, ben, donne-nous le pain pour ce jour. Hein? Parce que le mot lendemain n'existe pas en grec. Alors on dit le jour qui vient. Bon. Mais comme on est le matin, ça veut dire le jour, ce jour. Voilà. Bon. En tout cas, on va pas trop se prendre la tête sur cette traduction. On comprend que c'est un pain qui permet de durer dans le temps et qu'il est consistant. La question, alors, quel est ce pain? Je m'aperçois que ça peut être deux choses, et les pères de l'Église le disent. D'abord, c'est la parole de Dieu. Hein? Vous avez cette référence, Amos chapitre 8, verset 11. Je vais envoyer une fin de la parole. Et puis c'est aussi l'Eucharistie, Jean 6, 33, 34. Je vous signale que le discours en Jean 6 est un discours qui d'abord parle du pain qui est la parole en fait. Jésus dit, je vais vous donner un pain, ce pain du ciel, je suis le pain de vie. Quand il dit, je suis le pain de vie, d'abord il parle de lui comme une personne qui donne une sagesse. Comme on dirait de quelqu'un, ah, tu vois ce que tu es en train de me dire, c'est très nourrissant, ça nourrit. Mais on parle pas d'Eucharistie, quand quelqu'un dit tu es nourrissant, non, tes propos sont nourrissants, ça m'a nourri, c'est pas tu me donnes ton corps, on voit bien c'est ta parole. Mais à un moment donné, dans le discours, Jésus dit, attendez, oui, moi je suis une sagesse pour vous, mais je veux aller bien au-delà, je veux vous donner mon corps. Et là, du coup, il va passer du mot se nourrir au mot mâcher. Il va passer du mot manger au mot mâcher. Non, non. Et alors c'est pour ça qu'ils sont pas d'accord, ils sont scandalisés. Pourquoi ils sont scandalisés? Parce que attendez, moi je vous donne mon corps à mâcher en nourriture. Alors du coup, il y en a qui veulent partir. Et vous voyez, ils ne seraient pas partis, les disciples, si Jésus n'avait pas parlé de mâcher son corps de manière concrète. S'ils sont scandalisés, c'est parce que c'est pas simplement une nourriture de sagesse. Voilà. Cette parole, comme je vous l'ai dit, c'est une parole charnière. L'Eucharistie, c'est une nourriture comme une force. C'est pas pour rien qu'elle est au centre. On va dire de l'Eucharistie qu'elle est le source et le sommet de la vie chrétienne. Le Concile dit ça. Ben, comme par hasard, le sommet, il est mis au centre du Notre Père. Comme une force, pourquoi? Pour combattre le mal. Et j'en arrive aux trois dernières demandes. Je suis vraiment désolé, au niveau du temps, j'ai mal mesuré. Alors, la traduction littérale dans les trois dernières demandes. Remets-nous nos dettes comme nous aussi avons remis à nos débiteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on remette d'abord aux gens pour que Dieu nous remette. Alors, ça vous choque un peu? Eh bien, prenez le catéchisme. Le texte numéro 6. Or, et c'est redoutable, ce flot de miséricorde ne peut pénétrer dans notre cœur tant que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ce flot ne peut pénétrer notre cœur tant que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés. L'amour, comme le corps du Christ, est indivisible. Nous ne pouvons pas aimer le Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas le frère, la sœur que nous voyons. Dans le refus de pardonner à nos frères et sœurs, notre cœur se referme, sa dureté le rend imperméable à l'amour miséricordieux du Père. Dans la confession de notre péché, notre cœur est ouvert à sa grâce. Ça va ? Bon. Donc, cette demande, elle fait difficulté, mais elle fait tellement difficulté que Jésus, dans le Notre Père, va la reprendre. Matthieu 6, 14, donc juste après le Notre Père, c'est la seule demande où il insiste en disant, oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi au futur, mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne remettra pas vos manquements. Voilà. C'est la seule demande où il insiste. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien de demander à Dieu de nous pardonner si nous ne pardonnons pas nos frères. Ça ne sert à rien. On est à ce moment-là dans un rite, dans de l'ancienne religion. Voilà. Là, vous avez un bon exemple, c'est Matthieu 18, le débiteur impitoyable. Matthieu 18, versets 23 à 35. Vous savez, c'est quelqu'un qui devait une grosse somme à un maître, une grosse, grosse somme, hein. Et puis, le maître, alors, lui pardonne, lui remet cette somme. Hein, c'est des années de salaire. Il pleure et tout. Et bon, le père est pris de compassion et lui remet. Et à ce moment-là, une fois qu'il est sorti de chez le maître, il y a quelqu'un qui lui doit trois bricoles et commence à lui dire, écoute, là, faut que tu me les rendes. Et il commence à le mettre en prison, à l'assassiner, tout le bazar. Alors, le maître, il apprend ça. Il dit, mais quoi là, moi je t'ai tout remis là, qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? Alors, en fait, le maître, il se rend compte que le repentir de cet homme-là n'était pas un vrai repentir. Pourquoi ce n'était pas un vrai repentir? Parce que si tu te rends compte que Dieu te pardonne, que ce maître te pardonne de tout ce que tu lui dois, ben, tu vas rentrer forcément dans une action de grâce. Et tu vas être pris de compassion pour les autres. Le signe d'un pardon reçu, c'est que tu fais toi-même miséricorde aux autres. Mais en fait, ce pardon, il était extérieur. T'as demandé comme quelqu'un qui viendrait se confesser, mais qui ne regretterait pas profondément son geste. La preuve que tu ne regrettes pas, c'est que tu mets à mort celui qui te doit trois bricoles. En fait, quand tu es venu me voir, tu n'étais pas sincère. Et donc, pour que tu sois sincère, il aurait fallu que tu pardonnes d'abord à l'autre. Il faut que tu t'exerces au pardon de l'autre pour que tu puisses te présenter devant moi en vérité. En fait, j'ai fait les choses dans le mauvais sens. Je t'ai pardonné avant, mais tu aurais dû pardonner l'autre avant. Et comme ça, tu aurais, comment dire, ton cœur, tu l'aurais, hein, préparé pour recevoir mon pardon. Donc c'est ça, cette idée-là, hein. Hein? Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens et alors présente ton offrande. D'accord? Bon. Vous avez aussi Siracide 28. Pardonne à ton prochain ses torts, alors à ta prière tes péchés te seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Alors, vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre, moi j'arrive pas à intégrer que pour recevoir l'amour de Dieu, il faut d'abord que je me mette en règle avec l'autre. Mais tu t'aperçois que tu as plein d'exemples comme ça. Vous vous disputez avec quelqu'un, ben, et vous ne pouvez pas prier après. Pourquoi c'est mieux prier le matin? Parce que le matin, on n'a rien fait dans notre journée. Hein? Et on peut se disputer après. C'est tout. Tu prends, je sais pas quoi, tu vas déjeuner, tu prends trois barquettes de frites, un grand steak, et tu finis par un coup Yamane au caramel, plus une bière là-dessus, va faire oraison après. C'est tout. Bon. Il y a des conditions. C'est pas que Dieu est méchant, mais il y a des conditions. Pour être baptisé, il y a des conditions. Faut mettre sa vie en règle. Si t'es en concubinage, si t'es avec un petit copain, si machin, non, bah tu peux pas recevoir le baptême. C'est pas que Dieu est méchant, mais il y a des règles. Si tu vas te confesser, ça veut dire que ensuite tu décides de sortir de la confession et de remettre ta vie en ordre. Si tu veux pas remettre ta vie en ordre, tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu. Il y a des conditions. C'est tout. Voilà. et ne nous soumets pas à la tentation. Hein? Alors, la traduction maintenant, c'est ne nous laisse pas entrer en tentation. Non, c'est pas la Vulgate. La Vulgate, elle n'avait pas de problème. C'est au Concile Vatican II. Après, il y a eu quelques personnes là qui ont traduit les choses. Alors, vous avez tout ça dans une grande thèse qui fait 600 pages sur Notre Père de Jean Carmignac. Vous pouvez peut-être l'acheter sur Price Minister. Voilà. Vous avez 600 pages sur Notre Père. Bon. Et donc, ils expliquent pourquoi on en est arrivé à ça. Vous avez aussi le numéro de Famille Chrétienne, numéro 1870, du 16 novembre 2013, que je pourrais vous envoyer en PDF, et comme ça, qui vous donnera l'explication de cette traduction qui a été problématique, comment elle s'est faite. Bon, alors.
Même le catéchisme est très embarrassé dans le
paragraphe. Voilà, alors. En fait, ne nous laisse pas entrer en tentation est plus juste parce que l'idée, le mot exact, c'est l'idée d'entrer. Donc faire entrer plutôt que soumettre. Pourquoi ce mot soumettre? On n'a pas très bien compris. Bon. Donc il y a l'idée d'entrer, de pénétrer, et la nouvelle traduction est bonne avec cette idée de passage. Bon. Alors la question, c'est la question de la négation. C'est-à-dire, vous pouvez dire ne nous fais pas entrer ou fais qu'on n'entre pas. En fait, suivant où vous mettez la négation, ne nous fais pas entrer, suivant la traduction, ou fais qu'on n'entre pas. Ne nous fais pas entrer, ça veut dire que tu peux nous faire entrer ou pas nous faire entrer. Tu as les deux possibilités. Ou fais qu'on n'entre pas dans la tentation, c'est il n'y a qu'une possibilité, tu fais tout pour qu'on n'entre pas. Et c'est le problème de cette négation qui est en fait où on peut avoir un peu les deux choix. Bon. Alors, en fait, ne nous laisse pas entrer en tentation. D'abord, il faut distinguer, pour essayer de comprendre, ce qu'on appelle l'épreuve et la tentation. Je donnerai la solution, mais à la fin, hein, la traduction. D'abord, en distinguant l'épreuve et la tentation. Je vous signale que Dieu donne des épreuves. C'est important. Alors, vous avez des épreuves. Vous avez, par exemple, l'épreuve du jardin d'Éden. Voilà. Dieu dit, je te donne tous les arbres, mais il y a un arbre que je te donne pas. C'est une épreuve. Bon. Vous avez l'épreuve, je sais pas quoi, de Job. Job, c'est vraiment, enfin bon, c'est Satan qui propose, mais Dieu permet cette épreuve. Vous avez l'épreuve d'Abraham. Vous avez dans le Nouveau Testament, Jésus met les disciples à l'épreuve. Par exemple, quand il leur fait traverser la mer, hein, il sait très bien que vu le temps, il va y avoir de la flotte, ça va être problématique. Mais il a dit, allez hop, un peu comme un papa qui dit, allez à la nage. Et puis, alors, il leur demande d'aller sur l'autre rive. Et l'autre rive, il y a des tas de païens, donc des gens qu'on a horreur. C'est comme si je vous disais, bon, d'aller en mission dans les quartiers chauds de Vannes. Vous diriez, non, vous voulez pas que j'aille plutôt dans le quartier de la Madeleine? Voilà. Bon. Et puis, Jean, chapitre 6. Levant alors les yeux, la multiplication des pains, levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe. C'est Jésus qui parle. Où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Jean 6, 5. Jésus disait cela à Philippe pour le mettre à l'épreuve. D'accord? Gethsémani, c'est une épreuve aussi pour les disciples. Voilà. Bon. Alors, aujourd'hui, vous avez des tas d'épreuves, mais je vais distinguer l'épreuve de la tentation. Vous voyez? L'épreuve, je ne sais pas moi, l'épreuve d'une guerre. C'est une épreuve, une guerre. Tentation. Ah tiens, on pourrait peut-être piquer dans la maison du voisin des biens, puisque la maison a été détruite, je vais voler. Ou je vais, voilà, les gens ont des tentations. Voilà. Un mauvais curé. C'est une épreuve, un mauvais curé. Bah, tentation, ouais, j'abandonne la paroisse, c'est tous des idiots et tout, je me casse. Vous voyez, mauvais curé, je me casse ou je reste? Non.
ouais, le groupe machin, funérailles, ils sont tous idiots, je m'en vais. Épreuve. Bon.
Donc, on distingue bien épreuve et tentation. D'accord ?
Mais Jésus n'a pas connu l'épreuve.
Ah ben si, Jésus connaît plein d'épreuves. Hein. L'épreuve du désert. Oui, il y a plein d'épreuves. Mais il n'a pas été tenté. Mais il a connu l'épreuve du désert. Donc on distingue bien épreuve et tentation. Alors, nous avons besoin d'épreuves pour grandir. Par exemple, un curé, moi je suis curé, bon, cette paroisse c'est une joie et c'est une épreuve. Pourquoi c'est une épreuve? Parce que c'est plus difficile d'être curé que d'être vicaire. Quand vous êtes vicaire, vous n'êtes pas responsable, vous occupez trois activités et puis voilà, c'est tranquille. Voilà. Puis quand il y a un problème, hein, vous allez voir le curé, puis vous dites au curé, tu sais, là, il y a Schmoll et Schmoll, là, qui savent pas trop comment faire pour que tu t'en occupes. Je te le dis, hein, parce que tu sais, je suis très transparent avec toi, hein, je te dis les choses, mais il faut vraiment que tu ailles les voir, à mon avis. Je sais pas comment, mais tu vas y aller. Voilà. Donc, plus, voilà. Donc, voyez, donc, en même temps, je vois bien que d'être curé, ça me fait grandir. Plus on est responsable, plus on grandit. Voilà. Moins on est enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Les enfants, on leur propose des épreuves. On appelle l'épreuve du bac. Voilà. Hein, ça veut dire que tu passes une épreuve. Bon.
C'est pour ça que la vie est pleine d'épreuves.
Alors, la vie est pleine d'épreuves. Il y a des épreuves qui sont envoyées par Dieu. Je sais pas, moi, peut-être que moi je suis ici et puis Dieu voulait vraiment que je sois ici. Voilà. On peut dire ça. Je serais au ciel hein, si j'étais au bon endroit ou si c'est une erreur de mes supérieurs. Bon. Mais je pense que Dieu voulait que je sois ici. Donc, vous voyez, Dieu il a un projet, et puis les gens, ils obéissent bien à ce projet dans une vraie docilité à l'Esprit Saint. Des fois, il y a des prêtres qui sont à des endroits, mais c'est pas des bons, parce que je sais pas quoi, il y a des loupés dans le discernement. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, Dieu peut envoyer en disant, mais Paul, je voudrais qu'il soit là, Paul, je voudrais qu'il soit prêtre, voilà, bon. Et puis, il y a des épreuves que Dieu n'envoie pas. Bon, des épreuves, je sais pas... Une rupture amoureuse, c'est pas forcément, c'est pas Dieu qui envoie une rupture amoureuse. Dieu, il est pas là à vouloir que le couple se casse. Une maladie, c'est une épreuve, c'est pas Dieu qui envoie des maladies. Voilà. Donc, oui, d'autres épreuves. Bon. Et du coup, faut bien distinguer l'épreuve, voilà, l'épreuve de la tentation, c'est-à-dire que dans cette épreuve qui est donnée par Dieu ou qui n'est pas donnée par Dieu. Dans cette chose qui est difficile et dans les choses qui sont difficiles dans notre vie au sens large, il nous faut ne pas entrer en tentation. Et là, je vous renvoie au texte numéro 7 et je prends votre question juste après. D'accord ? Voilà, juste après votre question. C'est le pape Benoît XVI qui commente cette demande du Notre Père. Donc je trouve que Benoît XVI, ça va. Hein. Dès lors, texte numéro 7, nous pouvons interpréter la sixième demande du Notre Père de façon un peu plus concrète. Par elle, nous disons à Dieu, « Je sais que j'ai besoin d'épreuves afin que ma nature se purifie. Si tu décides de me soumettre à ces épreuves, si comme pour Job, tu laisses un peu d'espace au mal, alors je t'en prie, n'oublie pas que ma force est limitée. Ne me crois pas capable de trop de choses. » Ne trace pas trop large les limites dans lesquelles je peux être tenté et sois proche de moi avec ta main protectrice lorsque l'épreuve devient trop dure pour moi. C'est dans ce sens que saint Cyprien a interprété la demande. Il dit « Lorsque nous demandons « ne nous soumets pas à la tentation », nous exprimons notre conscience que l'ennemi ne peut rien contre nous si Dieu ne l'a pas d'abord permis. » Ainsi, nous devons mettre entre les mains de Dieu nos craintes, nos espérances, nos résolutions, puisque le démon ne peut nous tenter qu'autant que Dieu lui en donne le pouvoir. Vous avez une question alors ?
C'était pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?»
Beaucoup de gens qui disent « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Voilà. Donc, il ramène toutes les épreuves à Dieu. Voilà. Donc, c'est ça le problème. C'est important de pas... sinon, on est dans de la religion voilà, au temps d'Abraham, quoi. Bon. Voilà. Ça va ? Donc, vous voyez, la traduction un petit peu littérale qu'on pourrait faire de cette demande, ça serait une traduction expliquée, hein, c'est pas comme ça qu'il faut traduire, heureusement, mais dans l'épreuve fait que nous n'entrions pas dans la tentation. Ça serait ça. Hein. Dans l'épreuve que je vais vivre, dans les épreuves que je vis, fais, débrouille-toi pour que nous n'entrions pas dans la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, c'est dans l'épreuve fait qu'on n'entre pas dans cette tentation.
Oui, mais enfin, ce qui pose problème quand même, c'est que Dieu donne le pouvoir aux démons. Oui, mais pas au-delà de nos forces.
Pas au-delà de nos forces, voilà, c'est ce qui est marqué dans le texte. Hein. C'est marqué à un moment donné dans le texte de Benoît XVI. Dieu, il permet parce que, pour montrer sa victoire plus puissante, comme il permet... que le démon vienne tenter Jésus.
Est-ce que ça ne serait pas aussi en rapport avec que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux? J'ai l'impression qu'il laisse un peu de pouvoir aux démons sur la terre.
Il laisse un peu de pouvoir aux démons sur la terre. Alors, il y a ce qu'on appelle les conséquences du péché qui sont là. Mais si vous voulez, si les hommes écoutaient leur conscience, déjà il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de famine. Les gens, au lieu d'être sur des zones à risque de tremblement de terre, eh bien, ils seraient dans des zones sans risque. Je suis désolé, en Bretagne, il n'y a pas de problème de tremblement de terre. Mais non, enfin, je veux dire, vous ne mourrez pas. Non, mais d'accord, mais enfin, il n'y a pas des morts. Les lieux, à l'heure actuelle, on sait les lieux à risque. Donc, on sait mettre les populations dans des lieux non risqués. Donc, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus... Il y a un certain nombre de maladies qu'on n'aurait pas avec des cancers, parce que aussi... Donc, je veux dire, au lieu de faire de la nourriture débile, etc., on arrêterait de fumer. Enfin, il y a un nombre de trucs. Le mal, on le provoque aussi, quoi. Donc, à part l'enfant et des maladies, tout ce qui est maladie, l'enfant dans le sein de sa mère, etc., et puis il y a des cancers, des trucs, bien sûr, mais il y a quand même un certain nombre de souffrances qui sont provoquées par l'homme. Il faut quand même dire les choses. Donc... Oui. Oui. Ah ben oui, l'ancienne traduction était quand même très bonne. Hein. Ouais. Ne nous laisse pas succomber à la tentation.
Oui, mais en latin, il y a demos inducas, qui signifie n'est-ce pas.
Oui. Bon. Voilà, je vous ai donné le dossier, je vous ai éclairé avec Benoît XVI, je ne peux pas aller au-delà. Donc... voilà, à nous de voir, voilà, hein, quelles sont les épreuves que nous avons à vivre. Je pense à l'épreuve de la fidélité, hein, pour un prêtre. Voyez, pour un prêtre, c'est facile d'être prêtre, hein. Mais de demeurer prêtre, c'est plus difficile. Voilà. Bon, l'épreuve de l'autre, l'épreuve de... c'est comme le mariage, voilà. Je termine par « Délivre-nous du mal ». Alors, faut traduire plutôt « délivre-nous du malin ». Là encore, je vous donne ce que dit le catéchisme. Hein. Dans cette demande, numéro 2851, dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne. Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu, le diable, diabolos, est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. Donc voilà, la nouvelle traduction, aussi la traduction de la Tob, dit « délivrez-nous du tentateur ». Donc quand on y dit « délivrez-nous du mal », c'est vraiment de quelqu'un, c'est pas une abstraction. Et il faudrait dire plutôt « écarte » plutôt que « délivrer ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'on n'est pas emprisonné. La libération suppose un emprisonnement. Or, on n'est pas emprisonné, puisqu'on a été libéré par le baptême. Donc vous voyez, il y a un petit défaut là au niveau de la traduction encore. Il faut plutôt dire « écarter ». Hein ? En fait, quand vous voyez les trois dernières demandes, vous avez « Remets-nous nos dettes comme nous avons à remis à nos débiteurs, notre péché passé, ça c'est nos dettes. Garde-nous d'entrer dans la tentation, aujourd'hui, faut pas que j'entre dans la tentation, dans l'épreuve qui m'est faite. Et pour plus tard, fais que ce malin ne s'approche pas de moi. » Vous voyez, passé, présent, futur. Vous avez comme les trois temps par rapport au mal. Par rapport au malin. Donc ça veut dire, voyez, cette dernière demande me fait prendre conscience que je suis dans un combat, que le malin rôde autour de moi. Hein. Soyez sobre, 1 Pierre 5:8. Soyez sobre, votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde, mais vous êtes libre. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Il est là autour de vous. Donc Seigneur, écarte-le et permets-moi de vivre ce combat spirituel. Voilà, en même temps, délivre-nous du mal. L'intérêt, c'est peut-être de nous garder dans l'humilité. Nous sommes, en quelque sorte, le mal est proche. Et du coup, ben, Seigneur, permets-moi de reconnaître que je peux être facilement dans ses griffes. Et donc, fais que je ne sois pas à me surestimer en pensant que quand j'ouvre la télévision à 23h, il n'y aura pas de problème, je pourrai changer s'il y a une mauvaise émission. Non, s'il y a une mauvaise émission, je ne vais peut-être pas changer, etc. Donc, je me rends compte que j'ai des fragilités, que le malin est proche, et du coup, je te demande, comme dit Saint-Pierre Chrysologue, c'est avoir une juste et humble notion de soi et ne pas se livrer à la présomption d'un salut obtenu par ses seules forces que d'implorer de nous délivrer du mal. Voilà, j'ai conscience que je dois être dans l'humilité, que le malin est proche. Je conclus en faisant le Notre Père à l'envers. Hein, je vous ai dit, on commence Notre Père en regardant finalement le but de toute notre vie, c'est quoi? C'est d'être en communion avec le Père. Hein. Pourquoi le Christ nous sauve? C'est pour qu'on rejoigne le Père, d'accord? Ça, c'est le but. Le but est, j'ai envie de dire, que quand on reprend le Notre Père à l'envers, eh bien, on refait ce chemin pour arriver au Père. Donc, je pourrais le lire comme ceci. De la sortie de l'Égypte, délivre-nous du mal. Libéré d'Égypte, je suis capable de dire non à la tentation dans le désert. Hein, ne nous soumets pas à la tentation. Et je demande pardon pour celle où je suis tombé. Voilà, et ça fait référence au peuple qui demande pardon dans le désert, en Nombre, chapitre 11. Ensuite, je reçois la manne comme le pain de ce jour, sans faire de réserve. Je vais ensuite recevoir les 10 commandements qui vont me dire la volonté de Dieu que je vivrai. Mais le règne de Dieu va être tout proche de nous. Et j'entends dans le désert la voix du Père qui révèle à nouveau son nom, comme dans le buisson ardent, et ce nom, c'est son Fils qui nous permet de dire en toute vérité, « Abba, notre Père qui es aux cieux. » C'est beau, l'envers. Vous voulez que je vous refasse à l'envers? Ça va? Vous voulez ça sur une feuille? Ça, c'est un commentaire. Vous trouvez ça, je crois, chez Barbarin. Après, j'ai étoffé, j'ai rajouté des petites choses, oui. Ben là, oui, je vous ai fait... Après, j'ai romancé. Vous voulez que je re-romance encore à nouveau? Allez. De la sortie d'Égypte, délivre-nous du mal. Dernière tentation, là, ça va? Délivre-nous du mal. Libéré d'Égypte, je suis capable de dire non à la tentation dans le désert. Hein? Ne nous soumets pas à la tentation. Et je demande pardon pour celle où je suis tombé. Hein, remets-nous nos dettes, voilà. Ensuite, dans le désert, je reçois la manne, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et je reçois aussi les 10 commandements qui me disent la volonté de Dieu, hein, que ta volonté soit faite, hein, la volonté, les volontés. Et puis, du coup, eh bien, le règne de Dieu est tout proche avec Jésus. Hein, et avant qu'il me dise le règne de Dieu est tout proche, eh bien, il est baptisé dans le désert, et moi aussi j'entends dans le désert la voix du Père qui révèle à nouveau son nom, hein, tu es mon fils bien-aimé, c'est-à-dire je suis ton Père, et ce Fils qui nous permet de dire à nous tous, Abba, notre Père qui es aux cieux. Ouais, ce chemin, alors, c'est beau, hein. Quand vous voyez les trois, les quatre, tout le chemin de l'histoire de l'Ancien Testament, prêtre, prophète et roi, tout, enfin, c'est impressionnant. Ouais. C'est puissant la parole de Dieu. Je ne sais pas comment on ne peut pas avoir la foi rien qu'en disant ça, moi. Bon, on dit le Notre Père. Allez.